vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Ghost of Tsushima. On parlera ensuite des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Avatar Reckoning. On aura ensuite une petite news technologie avec un drone qui sauve un homme victime d'une crise cardiaque en Suède. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le jeu Ghost of Tsushima. Donc c'est un jeu vidéo d'action, aventure et d'infiltration en monde ouvert. Il est jouable en solo et en multijoueur. Il a été réalisé par Nate Fox et Jason Connell. Scénarisé par Ian Ryan, Jordan Lemos, Liz Albel et Patrick Downs, avec la musique que vous entendez de Shigeru Umebayashi et Ilan Eskeri. Le jeu a été produit par Brian Fleming, développé par Sucker Punch Productions et édité par Sony Interactive Entertainment. Il est sorti le 17 juillet 2020 sur PlayStation 4 et une version Director's Cut est sortie sur PlayStation 5 le 20 août 2021. Donc le jeu se passe au Japon en 1274 et s'inspire de l'histoire de cette époque sans pour autant chercher à la retranscrire fidèlement. Le monde étant totalement ouvert, le joueur pourra s'y balader afin d'y découvrir ce pays d'antan. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 6 sur 10 de la part de Gamekult. Donc avec Ghost of Tsushima, Sony nous livrait sa dernière exclusivité majeure PS4 avant l'arrivée de la nouvelle génération. Une mission remplie par Sucker Punch, studio historique derrière les séries Infamous et Sly Cooper. On peut d'ailleurs voir cet autre bébé de l'équipe comme une synthèse des deux, mix entre gameplay agile et ouvert, avec une bonne dose d'infiltration. Sauf que ce n'est ni un super-héros, ni le gentil raton laveur qui fait office de tête d'affiche cette fois-ci. Ghost of Tsushima propose en effet de suivre les aventures de Jin Sakai, samouraï de l'île de Tsushima, qui fera tout pour repousser l'invasion mongole, même si cela lui en coûte son credo et son honneur. Donc nous sommes au Japon au XIIIe siècle, des milliers de soldats mongols dirigés par l'impitoyable Khotun Khan s'apprêtent à déferler sur l'île de Tsushima. En face, l'armée japonaise est modeste, seuls 80 samouraïs composent les rangs de Shimura, à la tête du territoire envahi. Après quelques échafaudés, l'homme capitule et devient prisonnier, et l'intervention de son neveu Jin Sakai, que donc vous incarnerez, n'y changera rien. Sakai est jeté depuis le pont du château impérial, mais parvient à survivre. Il n'aura par la suite qu'un seul objectif en tête, délivrer son oncle et débarrasser l'île de la gangrène mongole. Il parcourra ainsi Tsushima à la recherche de guerriers dans le but de monter une armée. Donc il n'y a pas à dire, le contexte historique choisi par Sucker Punch en jette. Vivre l'invasion de Tsushima par les Mongols est une première dans l'histoire vidéoludique qui permet en plus de concrétiser ce fantasme d'un Japon féodal à la sauce triple A que l'on peut explorer de fond en comble. Et pour explorer, le joueur va explorer. Tout d'abord parce que vous devrez parcourir l'île pour grossir les rangs de votre armée, mais surtout parce que tout dans Ghost of Tsushima appelle à l'exploration, que ce soit son level design ou son game design, ce qui n'est pas pour déplaire. Le titre débarque en plus avec une très belle direction artistique, soutenue par une technique solide, même si elle n'est pas exempte de défauts, notamment pour l'intérieur des bâtiments. Donc côté son, c'est aussi du tout bon. La bande originale, dont le thème principal est superbe, fait largement le travail. Tout comme l'ambiance sonore. Idem côté doublage, même si, bon, forcément, on préférera sans aucun doute la version japonaise à son équivalent en français. Surtout que le personnage principal, c'est le doubleur qui fait Zoro dans One Piece, donc voilà. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors, premier point, le level design. Dans plusieurs interviews, les développeurs de Sucker Punch avaient évoqué leur envie que le joueur regarde le terrain de jeu plutôt qu'une carte. Une vision concrétisée par un système de vent qui guide le joueur, mais aussi par la manière dont a été bâtie l'île de Tsushima à base d'étendues vallonnées et de points de vue au perché. Une philosophie de level design qui pourra rappeler Breath of the Wild par moment, sans pour autant que Sucker Punch n'ait copié-collé la formule de Nintendo. Dans Ghost of Tsushima, pas de simili-tablette Sheikha ou de paravoile, mais même si Jin Sakai est très agile et qu'il peut gravir certaines surfaces, mais le tout donc n'en est pas moins agréable. La grande star de l'exploration sur Tsushima, c'est le système GPS par le vent. Donc en effet, Sucker Punch a misé sur un HUD très épuré qui réapparaît seulement pour donner les infos essentielles en combat, à savoir la vie, le nombre de munitions, etc. Une démarche soutenue par l'absence totale de minimap, que ce soit sur le haut de l'écran ou en bas à droite, C'est donc le vent qui servira de guide. Dans Ghost of Tsushima, pour atteindre un endroit précis, il faut ainsi ouvrir la carte du monde, sélectionner un endroit et suivre les traces du vent une fois en jeu. A noter que la bourrasque ne souffle pas en permanence et que le joueur pourra la faire se manifester à tout moment et qu'elle entraînera dans son sillon les végétaux. A noter que le côté très visuel et guidé par le regard de Ghost of Tsushima peut aussi être transformé à votre convenance, le tout grâce au mode Kurosawa, qui permet de faire basculer les couleurs vives du titre dans un noir et blanc du plus bel effet, manière pour le titre de rendre hommage au prestigieux film de samouraï dont il s'inspire. Le mode rajoutera également un crépitement à l'image et modifiera même le son. Ce n'est pas l'idéal pour naviguer de façon optimale dans le monde de Tsushima, balisé de couleurs très vives, mais ça fera quand même son petit effet quand vous l'activerez, particulièrement lors des duels où vous ferez face à un seul ennemi. Ce sera aussi sans doute l'occasion de dégainer le mode photo très complet, directement intégré au croix directionnel, aux côtés de la touche pour regagner de la vie et appeler son cheval. De quoi prendre de beaux clichés et faire varier de très nombreux paramètres comme la profondeur de champ, le sens du vent et les particules qui tombent du ciel. Le parti pris de Sucker Punch transparaît également dans la manière dont le jeu distribue ses quêtes et activités annexes. Donc hormis les missions principales indiquées au début de chaque acte, c'est en vous baladant et en parlant aux nombreux habitants que les points d'intérêt de l'île se dévoileront progressivement. Je précise d'ailleurs que les détails de la carte se dessineront au fur et à mesure de la route empruntée par le joueur, mais qu'un camp repris aux mains des Mongols fera apparaître les activités alentour. Il en résulte donc une carte très agréable à parcourir, où la curiosité est très souvent récompensée, et qui évite au passage l'écueil d'un terrain de jeu trop massif, écrasant voire intimidant, son contenu se dévoilant donc progressivement. Malheureusement, le plaisir s'étiole au fil des heures, déjà parce que passé quelques temps, donc compter 15 heures pour terminer l'aventure en ligne droite, le joueur aura rencontré tous les types de points d'intérêt disponibles, mais surtout parce que les quêtes de Ghost of Tsushima, aussi bien secondaires que principales, sont répétitives et peinent à impliquer le joueur. La raison, c'est que 90% d'entre elles demandent d'infiltrer ou d'attaquer des camps, ce que le joueur aura largement l'occasion de faire au fur et à mesure de ses balades. Alors oui, les camps varient en taille, dans certains cas il s'agit d'habitations de fortune, dans d'autres de châteaux, mais rien n'y fait, à quelques exceptions près, enchaîner les quêtes relève plus du fardeau que du plaisir. Et ce n'est pas l'écriture ou la mise en scène du titre qui sauvera l'ensemble, si Ghost of Tsushima est capable de fulgurance, surtout en début et en fin d'aventure, le titre déborde de propos mécaniques pour faire avancer l'intrigue, si bien qu'il faudra s'accrocher pour s'attacher au personnage. Ne vous attendez donc pas à des dialogues de la trempe d'un Red Dead Redemption 2. On ne retiendra pas Ghost of Tsushima pour sa narration, qui n'est pas aidée par des animations faciales figées qui peinent à transmettre des émotions, ce qui est quand même dommage pour un contexte historique aussi riche et déchirant. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test pour s'écouter la musique Lord Shimura, je vais y arriver. Donc extraite de l'OST du jeu Ghost of Tsushima, qui a été composée par Shigeru Umebayashi et Ilan Eskeri, et on revient juste après. Donc c'était la musique L'heure de Shimura composée par Shigeru Umebayashi et Ilan Eskeri, une musique extraite de l'OST du jeu Ghost of Tsushima dont on va continuer le test. Donc passionnant ou pas, des combats, vous allez en souper dans Ghost of Tsushima. Voilà comment ça se passe de ce côté-là. Au cœur des affrontements du titre, on retrouve un système de posture qu'il faut varier en pleine bataille pour être plus efficace en fonction des ennemis, donc ceux qui tiennent une lance, une épée, un bouclier, etc. Quatre postures sont de la partie qui se débloqueront en terrassant suffisamment de chefs de camp. Pour le reste, avant d'entamer la barre de santé de l'ennemi, il faudra briser sa garde en lui assénant suffisamment de coups, tout en esquivant certaines attaques inarrêtables qui sont symbolisées par une lueur rouge, même si des améliorations avancées vous permettront ensuite de les parer. Donc dans les faits, cela fonctionne plutôt bien, il faut bien observer ses adversaires et faire preuve de réflexe quand plusieurs d'entre eux vous entourent. Toutefois, le système a pour effet secondaire de réduire mécaniquement la diversité des ennemis, répartis en un peu plus de 4 catégories en fonction des postures. Mais surtout, certains choix faits par Sucker Punch paraissent curieux, voire étonnants. Par exemple, dans Ghost of Tsushima, il n'est pas possible de loquer un assaillant en pleine bataille, ce qui aura la fâcheuse tendance de rendre les combats brouillons quand Jin Sakai est encerclé. Pour diriger les coups, il faut orienter le stick vers la cible, ce qui occasionnera souvent des ratés dans le feu de l'action. Pas possible non plus de repositionner la caméra derrière soi, et en l'absence d'indicateur visuel pour signifier la présence d'un adversaire hors champ en plein affrontement, il va parfois falloir enchaîner les roulades pour s'en sortir. Des défauts qui sont acceptables et qui demanderont un petit temps d'adaptation, mais d'autres soucis sont beaucoup plus dommageables, notamment en ce qui concerne les armes secondaires. Dans le jeu, pour passer de l'arc à la bombe par exemple, il faut maintenir L2 et sélectionner son choix à l'aide des touches directionnelles. Un changement qui ne ralentit pas l'action, à la différence du moment où l'on fait varier sa posture, surtout que maintenir la gâchette pour changer d'arme est la seule et unique façon de voir le nombre de flèches et d'explosifs qu'il vous reste. Certes, le nombre de flèches s'affiche en temps réel sur le dos de votre personnage, mais la confusion est vite arrivée. Attendez-vous donc à mourir quelques fois pour avoir sorti votre arc, alors qu'il ne contient aucune munition. Pour les affrontements au corps à corps, le joueur pourra les éviter s'il est suffisamment discret et qu'il maîtrise l'art de l'infiltration, un point sur lequel Ghost of Tsushima est d'ailleurs très classique. Il sera ainsi possible de s'accroupir derrière des murets et se dissimuler dans les herbes hautes pour ne pas être repéré par les gardes. A noter toutefois la possibilité de passer à plat ventre dans certains passages et de pouvoir utiliser les fenêtres et les trappes des habitations comme échappatoire, de quoi faciliter la fuite si plusieurs ennemis sont à vos trousses. Il est aussi possible de passer par les toits pour faciliter l'infiltration, ce qui mettra malheureusement en évidence une intelligence artificielle assez moyenne, rarement capable de lever le menton pour vous apercevoir. Pour le reste, Jin Sakai peut abattre les ennemis en un coup dans le dos et sauter des toits pour y planter violemment son katana. Un mode écoute est aussi de la partie pour apercevoir les adversaires au-delà des murs. Au final, le tout est agréable à jouer, mais ne transmettra pas de sensations grisantes. Ce qui nous amène finalement à toutes les armes que Jin Sakai rassemblera pour combattre les Mongols, donc entre l'arc, les explosifs, les fumigènes ou encore les kunai, il y a de quoi faire. Un attirail qui s'étoffera à l'image du système de posture tout au long du scénario. C'est aussi de cette manière que certaines techniques se débloqueront, comme la possibilité d'exécuter le chef d'un camp d'une seule attaque discrète, ou l'arrivée de la posture du fantôme, état de transe où le joueur peut exécuter 3 ennemis d'un seul mouvement. Le tout suivant la lente transformation de Jin Sakai vers un art du combat barbare, où l'honneur n'a pas sa place. Le gameplay suit ainsi le scénario, ce qui est plutôt bien vu. Des capacités qu'il sera possible d'améliorer ensuite via un arbre des talents plutôt complet. Pour cela, il faudra rassembler des points d'expérience qui s'obtiennent à mesure que la réputation du joueur augmente. Une réputation qui grandira à l'issue de chaque bataille, que ce soit une mission principale, secondaire, ou alors une simple escarmouche entre vous et les Mongols. On en revient ainsi à l'exploration qui viendra également étoffer la puissance du joueur, car les patrouilles à décimer sont nombreuses sur l'île de Tsushima. Surtout que certaines techniques, très efficaces, sont accessibles uniquement après avoir terminé les récits mythiques, des quêtes secondaires un peu spéciales, souvent liées à une divinité ou à un héros de guerre. Bref, Ghost of Tsushima, c'est un peu l'exploration avant tout, et c'est sans doute ce que la majorité des joueurs retiendront. Donc pour résumer les points forts, on a des environnements envoûtants, une exploration guidée par le regard, la physique du vent, un monde condensé pas trop grand ni écrasant, la lente transformation du héros et ses répercussions, le contexte historique qui est déchirant et passionnant. Pour les points faibles, on a un système de combat parfois confus, une écriture qui peine à impliquer le joueur, des objectifs trop centrés sur des camps à attaquer et des animations faciales figées. Le résultat est donc plutôt mitigé. D'un côté, le titre visuellement solide transpire le dépaysement à tous les étages et ses environnements ne demandent qu'à être explorés. Le tout est soutenu par un système GPS guidé par le vent qui, s'il n'est pas sans défaut, a le mérite de faire regarder le joueur devant soi plutôt que sur une mini-map. Mais après quelques heures, on ressent finalement quelque chose de bancal. Déjà au niveau des combats, dont certains choix surprenants, comme l'impossibilité de voir le nombre de munitions de certaines armes en un coup d'œil, alourdissent l'ensemble, surtout que les combats sont quand même au cœur de Ghost of Tsushima. La quasi-intégralité des missions, qu'elles soient secondaires ou principales, demande de faire le ménage dans un camp, ce que le joueur aura déjà largement l'occasion de faire au cours de ses balades. Le tout n'est pas aidé par l'écriture, assez pauvre et mécanique, qui contient quand même quelques fulgurances. Bref, on fait très souvent la même chose et ce qu'on y raconte n'est pas passionnant. S'en dégage un léger goût amer qui s'estompe lorsque le titre nous laisse les mains libres, mais qui revient quand on retombe sur une quête ou un énième campement à nettoyer. Le jeu de Sucker Punch n'en reste pas moins agréable à parcourir et complet, donc comptez 15 heures en ligne droite pour la quête principale, mais ce n'est pas une claque, plutôt une main tendue vers le Japon féodal que l'on acceptera volontiers. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu Ghost of Tsushima, c'est Angsar Katun The Eagle, donc composé par Shigeru Umebayashi et Ilan Eskeri, et on revient juste après. Donc c'était la musique Angsar Katun The Eagle, une musique extraite de l'OST du jeu Ghost of Tsushima et qui a été composée par Shigeru Umebayashi et Ilan Eskeri. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place c'est Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En troisième place, c'est Mario Party Superstars sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En deuxième place, Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, encore un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est donc FIFA 22 sur PS4, un jeu d'Electronic Arts. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place Ghost of Tsushima Director's Cut, en 2ème place FIFA 22 et en 1ère place Spider-Man Miles Morales. Le top 3 pour la Xbox série, on a en 3ème place Call of Duty Vanguard, en 2ème place Halo Infinite et en 1ère place Forza Horizon 5. Le top 3 pour la PS4, on a en 3ème place Spider-Man Miles Morales, en 2ème place Call of Duty Vanguard et en 1ère place FIFA 22. Le top 3 pour la Xbox One, on a en 3ème place Battlefield 2042, en 2ème place Call of Duty Vanguard et en 1ère place FIFA 22. Le top 3 pour la Nintendo 3DS, on a en 3ème place Donkey Kong Country Returns sur 3DS, forcément vu que c'est sur 3DS. On a aussi en 2ème place Super Mario Maker Selects et en 1ère place Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Selects. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en 3ème place Football Manager 2022, en 2ème place The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition et en 1ère place Farming Simulator 22. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Un 2ème jeu adaptant la franchise Avatar vient donc d'être annoncé pour une sortie en 2022. Il s'agit d'un MMORPG sur mobile baptisé Avatar Reckoning. Donc récemment, on a appris que le film Avatar 2 sortirait à la fin de cette année. On comptait donc déjà deux nouvelles œuvres à ajouter à la franchise Avatar pour l'année 2022, avec le film et le jeu d'Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora. On sait désormais qu'il y aura un troisième moyen de s'immerger dans l'univers d'Avatar, avec le MMORPG sur mobile Avatar Reckoning. Dans ce jeu, les joueurs auront la chance de pouvoir créer leur propre personnage Navi au sein de l'univers d'Avatar. Comme dans tout RPG, vous pourrez vous équiper d'accessoires, de protections, d'armes, etc. Vous pourrez suivre l'histoire principale en solo à travers plusieurs missions dans des zones encore jamais vues de Pandora. Vous rencontrerez et rejoindrez des clans Navi et pourrez ainsi les aider à défendre leur terre contre les troupes humaines de l'organisation RDA. Mais sur le chemin, vous pourriez aussi rencontrer des créatures locales, parfois gigantesques. Donc il est tout à fait possible de faire le jeu en solo, mais le jeu est bel et bien un MMO. On nous annonce en effet que divers modes compétitifs en PVP ou coopératifs seront disponibles. Donc Avatar Reckoning est développé par le studio chinois Arcosaur Games et édité par Level Infinite, label international de Tencent ayant notamment déjà édité Arena of Valor ou encore Warhammer Vermintide 2. Avatar Reckoning tournera sous Unreal Engine 4 et on nous promet des visuels exceptionnels sur ces fameuses zones jamais vues du monde de Pandora. A noter, le jeu est un MMO mais se base sur un gameplay de shooter et ses contrôles ont été pensés pour le tactile, d'après Level Infinite. Il sera d'abord lancé en bêta fermée au Canada seulement, donc à partir de ce mois-ci. Vous pourrez vous inscrire sur le site officiel du jeu pour espérer jouer à la bêta si vous êtes éligible. Sinon, je rappelle qu'Avatar Reckoning devrait donc sortir sur iOS et Android, du coup dans l'année. Voilà, on passe maintenant à la news technologie. Au cours des dernières années, nous avons pu constater que les drones pouvaient être des outils particulièrement utiles, notamment en matière d'observation aérienne et de livraison. Dans ce cas-ci, l'utilité d'un drone a été encore plus importante puisque l'appareil doté d'un défibrillateur a permis de sauver la vie d'un homme victime d'une crise cardiaque. Donc environ 275 000 personnes sont victimes de crises cardiaques chaque année en Europe et environ 70% d'entre elles surviennent à domicile sans défibrillateur sur place. Il existe désormais une solution très innovante à ce problème, des drones défibrillateurs. L'un de ces appareils volants a d'ores et déjà permis de sauver la vie d'une personne victime d'une crise cardiaque. Le sauvetage a eu lieu le mois dernier à Trollhättan, en Suède. Lorsqu'en allant travailler, le médecin Mustafa Ali a trouvé un homme de 71 ans qui s'était effondré dans son allée en pelletant de la neige. Constatant que la victime était en bradycardie, le médecin a pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire et a demandé à un passant de contacter les urgences. Mais avant qu'une ambulance arrive, c'est l'un des drones de Lever Drones Emergency Medical Aerial Delivery qui est arrivé, livrant avec succès le défibrillateur qu'il transportait. En tout, il a donc fallu environ 3 minutes après le signalement pour que le drone arrive sur place, et cela a donc permis de sauver la vie de la victime. À savoir que lors d'une crise cardiaque, la victime a généralement besoin d'aide dans les 10 minutes suivant le malaise pour survivre. Donc comme son nom l'indique, le drone a été créé et exploité par la société Everdrone, un leader mondial dans le secteur des drones autonomes, dans le cadre de son service de livraison aérienne de soins médicaux d'urgence. Je cite, « C'est une technologie vraiment révolutionnaire qui doit être mise en œuvre partout. Les arrêts cardiaques soudains peuvent arriver à n'importe qui, pas seulement aux personnes âgées atteintes d'artériosclérose », a donc témoigné le patient dans un communiqué de presse. Voilà. On va maintenant finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu deux sorties aujourd'hui, vendredi 14 janvier, avec New Home Medieval Village sur PC et Supraland 6 Inches Under sur PC. On aura une sortie pour mardi 18 janvier avec Nobody Saves the World sur PC, Xbox Series et Xbox One. Une sortie pour mercredi 19 janvier avec Alina of the Arena sur PC et sur Mac. Et les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 20 janvier avec Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sur PC, PS5 et Xbox Series. Windjammers 2 sur PC, PS5 et Xbox Series. Expédition Rome sur PC. Puperazzi sur PC, Xbox One et Mac, Hitman Trilogy sur PC, PS5 et Xbox Series, et enfin on aura la sortie de Shinobi sur PC.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h, c'est Asian Bubble si vous connaissez toujours pas, shame on you. Voilà, donc du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un beau week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.